Bonjour à tous, ici Frédéric Bérubé et bienvenue à votre podcast Polmar. Cette semaine à l'émission, cap sur un pays d'Amérique centrale ébranlé par de nombreuses crises, le Guatemala. Qu'elles soient politiques, sociales ou migratoires, ces crises secouent le pays depuis maintenant des années. Cependant, nous assistons depuis quelques mois à une augmentation des manifestations au sein de la population. Pour mieux comprendre l'origine de ces événements, je vous propose un bref retour sur l'histoire du Guatemala, suivi d'un survol de l'actualité des deux derniers mois. Découvert par les Mayas en 1000 avant Jésus-Christ, le Guatemala connaît une longue période de lutte à la suite de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Les conquistadors espagnols gagnent finalement le pays en 1524, lequel sera dirigé par le gouvernement de l'Espagne pendant 300 ans. S'ensuit l'apparition des grandes exploitations agricoles coloniales, qui riment avec domination et exploitation des peuples autochtones. Les royaumes mayas sont écrasés, leurs terres confisquées et leur culture effacée par les missionnaires catholiques. Le 15 septembre 1821, le Guatemala acquiert finalement son indépendance. À partir de 1823, des présidents libéraux et conservateurs aux politiques semblables se succèdent. Oligarchie, dictature, toute puissance de l'Église et domination sur les autochtones sont la norme. De 1898 à 1944, le Guatemala se trouve sous la tutelle des États-Unis, ainsi que sous les ordres de deux dictateurs, Manuel Cabrera, suivi de Jorge Ubico. L'arrivée en 1945 du premier président démocratiquement élu, Juan José Arévalo, vient changer la tendance. Pendant 10 ans, de multiples réformes sociales sont en effet lancées, dont certaines concernent la répartition des terres et du travail agricole. Les Américains et les principaux propriétaires terriens qui s'y opposent fomentent alors un coup d'État en 1954. C'est la fin de l'expérience démocratique et les militaires prennent le pouvoir pour instaurer un régime autoritaire anticommuniste. C'est le début de la guerre civile. De 1960 à 1996, les gouvernements autoritaires se succèdent au rythme de coups d'État et d'élections truquées. Les dirigeants des groupes de gauche soupçonnés de communisme, ainsi que les fondateurs des mouvements d'opposition appelés guérillas, sont la cible première du gouvernement guatémaltèque. Le pays connaît sa période la plus meurtrière de 1982 à 1985, sous le règne d'Efrén Ríos Montt. Ce dernier fonde une politique de la terre brûlée et rase 440 villages dans l'objectif de détruire les bases de ravitaillement des guérillas. Les peuples autochtones, et plus particulièrement les communautés mayas, sont les principales victimes de ce carnage. Disparitions, massacres collectifs, viols et tortures, le rapport des Nations Unies dénombre à environ 200 000 le nombre total de personnes tuées au cours de la guerre civile. En 1985, afin d'attirer l'aide économique dont a besoin le pays, les militaires cèdent finalement le pouvoir aux civils. Malgré le nouveau régime politique démocratique, ces derniers restent très présents au pouvoir, et ce, encore aujourd'hui. Les années 90 sont des années de négociations entre le gouvernement et les guérillas. Il faut toutefois attendre le 29 décembre 1996 pour que les accords de paix soient finalement signés. Aujourd'hui, le Guatemala compte près de 17 millions d'habitants, dont près de la moitié sont des Autochtones. Ces derniers n'ont toujours pas eu justice et réparation pour les 36 années de génocide et de nombreuses plaies sont toujours ouvertes. Cela m'amène à vous parler de l'actualité du Guatemala. Le 28 septembre 2021, des fouilles commençaient dans la communauté maya de Chiul afin de retrouver les corps d'enfants indigènes tués pendant la guerre civile. Les autorités guatémaltèques souhaitent ainsi refermer une première plaie chez les peuples autochtones. Il faut mentionner qu'encore aujourd'hui, beaucoup de citoyens nient l'existence du génocide. Sur un autre sujet, le 14 septembre, la ministre guatémaltèque de la Santé, Amelia Flores, annonçait sa démission en invoquant des raisons personnelles. Critiquée pour sa gestion de l'achat de vaccins russes Sputnik V contre la COVID-19, la ministre sera remplacée par l'actuel vice-ministre de la Santé pour les hôpitaux, Francisco Coma. Jusqu'à ce jour, le pays dénombre 14 200 morts causées par la pandémie de COVID-19. L'Amérique centrale, où chaque année des milliers de migrants provenant notamment du Guatemala tentent d'atteindre les États-Unis, est elle-même confrontée depuis plusieurs mois à une crise migratoire. Le 9 octobre 2021, la police guatémaltèque retrouvait un conteneur dans le sud du pays dans lequel 126 individus avaient été abandonnés. Ces derniers, majoritairement haïtiens, tentaient de passer au Mexique pour rejoindre les États-Unis. Les migrants ont été emmenés dans un refuge géré par l'Institut guatémaltèque des migrations et seront prochainement renvoyés en Honduras, nation par laquelle ils sont entrés au Guatemala. Plus récemment, le 12 octobre, des milliers de personnes défilaient dans la capitale du Guatemala et tentaient de jeter à terre une statue du navigateur Christophe Colomb. À ce sujet, nous recevons aujourd'hui Marc-André Anzueto, professeur en développement international au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Monsieur Anzueto, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Anzueto, pouvez-vous nous éclairer sur les raisons des manifestations qui ont récemment eu lieu dans la capitale du Guatemala?
Oui, à vrai dire, c'est des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs pays, déjà depuis plusieurs années. Mais dans le cas du Guatemala, je vous expliquerai un peu plus en détail, ça a une composante quand même historique et sociétale très forte. À vrai dire, le 12 octobre, c'est ce qui est célébré communément comme la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et vous savez que l'héritage du colonialisme est de plus en plus remis en question, critiqué ici même au Canada. Et dans un même esprit, le Guatemala, justement, dans les dernières années, on assiste à de plus en plus de manifestations où on dénonce justement cette journée qui, pendant longtemps, était, disons, célébrée comme l'avènement de la civilisation, mais pour les peuples autochtones, pour la population maya guatémaltèque, qui représente presque la moitié de la démographie guatémaltèque, ça l'évoque d'autres choses. Et donc, pour beaucoup de manifestants, le 12 octobre, c'est plutôt un jour de résistance.
Et donc, pouvons-nous dire qu'il y a une crise sociale qui se passe en ce moment au Guatemala?
Bien, le Guatemala est parsemé de crises. Des crises sociales, politiques, certes, mais aussi des crises qui sont causées par des catastrophes naturelles, des crises environnementales. Il faut quand même rappeler pour les auditeurs, les auditrices, que le Guatemala a connu un long conflit armé interne, qui a duré 36 ans entre 1960 et 1996. Donc, quand on parle de crise sociale au Guatemala, il y en a beaucoup qui découlent justement des conséquences du conflit armé interne. Et les réparations et reconnaissances justement de ces actes-là ont eu lieu juste dans les dernières années. Et donc, il y a encore beaucoup de cicatrices qui ne sont pas tout à fait guéries. Et lorsqu'on ajoute à ce cocktail de violence, impunité et pauvreté endémique, le contexte actuel de la COVID et l'administration du président Alejandro Gamatay depuis déjà peut-être 2 ans génère de plus en plus de mécontentement à travers les différentes classes sociales et groupes de la population guatémaltèque.
Et justement, parlant du gouvernement là, de Gamatay, pouvez-vous nous faire un bref portrait de la situation politique au Guatemala depuis l'élection en 2019?
Entre 2007 et 2019, existait ce qu'on appelait la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, la CICIG, qui était un mécanisme hybride à la fois avec des fonctionnaires onusiens et des fonctionnaires guatémaltèques pour démanteler des structures parallèles du pouvoir, donc comme un État mafieux à l'intérieur qui gangrenait les quelques institutions démocratiques. Et quand Gamatay est arrivé en 2019, il a poursuivi justement ce démantèlement d'institutions qui luttent contre la corruption. En juillet, juste avant les émeutes, les grandes manifestations qui ont eu lieu cet été, on voit comme il y a une continuité dans les entraves au travail de lutte contre la corruption et la COVID. Et donc, ça donne un cocktail où, les inégalités socio-économiques sont juste exaspérées dans un contexte pareil.
Et vous pensez que le Guatemala s'en va où, sachant ça?
Bien, c'est une excellente question. Moi, je pense que c'est... qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, c'est d'abord une polarisation. On a commencé l'entrevue en évoquant la journée du 12 octobre, ces manifestations comme des symboles liés au colonialisme, et Christophe Colomb, etc. Bien, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup avant. Et donc... dans le sens où la gauche guatémaltèque est en train de prendre des mesures un peu plus drastiques. Et ça, moi, c'est ça que je regarde, parce que si l'administration de Gamatay poursuit dans son incompétence bien documentée et que les manifestations réussissent à faire basculer, mettons, l'opinion publique, ben dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait assister genre à une chute, comme on a vu, et par conséquent à l'arrivée au pouvoir de nouveaux joueurs dans la vie politique guatémaltèque.
Marc-André Anzueto, merci d'avoir été avec nous.
Merci, ça fait plaisir.
C'est ce qui conclut cette émission de Pôle Mort. Rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de mon collègue Lucas Hanchou, avec qui vous partirez à la découverte d'un autre pays peu couvert par les médias, le Bhoutan. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.